très haute idée de ce que Freud a fait à la langue allemande. Non. C'est vrai en anglais, c'est vrai en français, c'est vrai en espagnol, c'est une horreur. Donc, c'est quand même très... L'entrée que Freud donne à ce genre de problème, c'est quand même passionnant. Et pourtant, il ne va pas jusqu'à dire, comme Lacan, que ce qui importe, c'est la castration de la mère. Que c'est pas que le petit ou la petite, ils aient ou ils aient pas que, c'est que la mère en est un ou pas. Ça, c'est Lacan. Ça, c'est hein, signification du phallus, 1958. Bon, on arrête de menacer les autres avec cette histoire. Mais alors, par contre, la dégradation, elle existe. Bon. Alors, pour voir si des objets sont homologues, il faut les défaire d'une certaine manière. Alors, je vais faire d'autres dessins. Je vais effacer le spike et je vais faire une série de dessins ici à la suite de ceux qui sont au-dessus. Parce que je crois que c'est pas de la daube facile à manger. C'est pas quelque chose de facile à voir. Alors je vais défaire une maille là, qui est au milieu. Je vais défaire une maille qui est au milieu, comme ça. Alors c'est un peu embêtant si je défais celle-là, ça va, je vais défaire la symétrie. Donc je vais peut-être commencer par vous défaire les deux triskels qui sont aux extrémités avec cette histoire de maille qui est autour. Pour vous faire voir la maille qui est autour, je vais produire les deux triskels à l'identique. Regardez comme ça. Voilà. Ça c'est ce petit-là, et je vais mettre le petit l'autre à côté. Plus près. Pour avoir de la place. Hein. Ça, c'est celui-là. Voilà mes deux triskels. Et vous voyez que ici, ça se croise, là. Alors, je vais faire ça en deux étapes. Bon, ici, j'ai défait déjà des mailles, donc je fais ça comme ça. Vous voyez ? Ici, je défais comme ça. Si je resserre, on voit peut-être mieux. Mais ici, j'ai ça. Pof, pof, voilà. Comme ça. Et celui-là, au lieu de le faire passer par en dessous, je le fais passer par au-dessus. Voilà. Là, on voit qu'il y a une maille non alternée. Vous la voyez ? La maille qui est tout autour, maintenant, je l'ai enfermée en faisant en sorte qu'un fil, je l'ai fait passer au-dessus. Au lieu qu'il passe en dessous, je le fais passer au-dessus. J'ai mis aucun croisement à contribution. Je n'ai rien changé quant au croisement. Hein. C'est juste le parcours de ce fil depuis ici jusque là que j'ai fait passer par au-dessus. Alors là, on voit bien que si je réduis ça, je vais me retrouver avec ça, avec les deux triskels, les trois croisements. Voilà. Hein? Ici, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Et celui qui est au-dessus, maintenant, je défais la maille. Défait la maille qui est au-dessus, là où il y avait le point. Le fil qui passe en dessous ici, il passe en dessous ici, donc il peut glisser en dessous, il peut venir là. Il peut se décomposer ici. Hein, je l'ai fait passer par en dessous. Bon. Là, ça commence à se voir, donc ils sont libres. Enfin, il y en a un qui est casé dans la maille des deux autres. Hein? Ben, vous voyez que c'est toujours... C'est ça qui est amusant, c'est que intuitivement, si vous vous dites, c'est de la ficelle, il y en a un que je peux tirer comme ça, c'est très bien, c'est juste, mais vous verrez que vous ne sortez pas des mouvements de Rivermeister, parce que ça, c'est un mouvement de Rivermeister. Hein, ils ont été comptabilisés et numérotés, les mouvements qu'on peut faire. Basiquement, il y en a trois. C'est défaire les boucles, défaire les mailles, modifier les triskels. Non alternés. Ici, les mouvements de Rivermeister, c'est comme ça. Défaire une boucle, c'est B1. Défaire une maille, on va appeler ça M2. Hein, voilà le point que je mets au milieu de la maille. Je mets ça, c'est juste pour mémoire. Hein. Vous pouvez le deviner de loin. Quoi. C'est juste comme une espèce de petit pense-bête. Et le troisième mouvement de Rivermeister, c'est quand il y a un triskel non alterné, comme ça. Hein, c'est pas un triskel alterné comme celui-ci. C'est un triskel. qu'il y a dans l'internet, on peut faire passer le fil, un fil au-dessus du croisement des deux autres. On va l'appeler T3. Triskel 3. Bon, ça, c'est les trois mouvements basiques que nous faisons, toujours. Et regardez, si je tire ce rond-là vers le haut, je fais déjà ici, je défais une maille. Si je défais cette maille dans l'interné qui est là, j'obtiens ça. Et l'autre passe là. Tirer le rond, c'est ce qu'on dira d'un point de vue cinétique, si vous voulez, cinématographique. On tire ce rond-là. Mais tirer ce rond, c'est quoi? C'est défaire une première maille et puis ensuite c'est défaire une deuxième maille. Voilà. Ah, non, il ne faut pas croire. Il faut passer en dessous. Vous voyez? Il reste une maille à défaire. C'est selon. Si vous défaites cette maille par le bas, vous allez avoir un rond à l'intérieur d'un autre et puis un autre qui sera à côté. Si vous défaites cette maille vers le haut, vous en avez deux qui sont à l'intérieur d'un autre rond. Dans l'espace, ça compte pas. Mais ça compte si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe dans le plan. Ça dépend si vous voulez voir ça d'une manière qu'on appelle d'ambiance. Hein, c'est comme il y a de l'ambiance. C'est-à-dire que ces deux-là sont. Ça, c'est une transformation d'ambiance. Ça nécessite de quitter le plan, de faire la boucle. Les deux autres mouvements dans la normalisation ne sont pas d'ambiance, on les dit réguliers, parce qu'ils restent solidaires du plan. Ils glissent à plat. Bon. Donc voilà. Est-ce que maintenant ça va qu'ils sont libres? Vous voyez? Est-ce que vous voyez la fonction du triskel et des mailles qui se distinguent? Non? Dans votre commentaire de tout à l'heure.
Oui.
C'est intéressant d'en parler, vous voyez, parce que. Chacun voit ça, hein, l'étranger, comme il veut, chacun voit midi à sa porte. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire un petit jeu d'écriture comme ça. Ça, c'est un début d'alphabet, mais c'est un alphabet dynamique. On n'a pas l'habitude d'écrire quelque chose où les lettres sont des mouvements. Bon, bien qu'une dame un jour qui était très académique et qui s'intéressait à l'écriture chinoise a voulu me persuader que, parce qu'elle avait lu ça chez les jésuites, qu'il y avait une orthographe chez les chinois et que l'orthographe consistait à savoir lire. Ce qui est sûr, on sait que les chinois savent lire dans le fait de faire un trait. C'est pas la même chose de faire ce trait en partant d'en haut vers le bas que de partir du bas vers le haut. Alors, mais est-ce que c'est une orthographie? C'est sûr qu'il y a. Bon, c'est la question de l'ortho que je suis en train de discuter, mais pas de la graphie. C'est sûr qu'il y a une graphie. C'est très différent. Bon. Mais c'est l'intérêt de cette orthographie, si c'était une orthographie, c'est le fait que c'est pas simplement d'oublier une lettre ou d'en mettre une en trop. Une oublieur, de se tromper de lettres, substituer les lettres les unes aux autres. Là, c'est quelque chose qui est déjà dynamique. Et voilà, voilà que là, nous rentrons dans une écriture où c'est encore un autre type de mouvement. C'est pas seulement le mouvement du graphémateur, là. Du graphéamateur. C'est le mouvement même d'un dessin à l'autre. C'est une curieuse façon d'écrire. Hein? Et Lacan nous dit que ça lui va comme bague au doigt parce que à cause du Borromée. C'est-à-dire à cause de celui-là. Bon. Alors je vais effacer le tableau du milieu, sauf si quelqu'un conteste. Personne conteste?
Si.
Si. Vous avez le droit, vous avez le droit. Moi, je veux pas faire des tours de passe-passe. Alors, je marque les scansions, je marque les points, les guillemets, les virgules, les accents. Ok ? On peut y aller ? Bon, allons-y. Non, parce que Tomé, il est pire que moi, hein, vous savez, il se fâche.
Bon, je fais ça quand même, pas être trop frustré là-dessus, mais c'est vrai que c'est bien de prendre le soin de préciser l'extension. Bon, bah, écoutez, c'est bien simple, je vous dis, c'est quand même incroyable qu'on accepte de faire ça à l'auto-école, alors c'est très très bête d'apprendre à conduire une voiture, quand même, et pas dans la psychanalyse. On croit que parler, c'est extrêmement important, les virgules, les points, les parenthèses, les blancs, les silences. C'est ça la psychanalyse, c'est ça. Bon, alors est-ce qu'à votre avis on peut faire la même chose sur ça? Bah oui. Écoutez, quel est l'argument que vous, en dehors du fait que vous le voyez ou vous le voyez pas, vous y croyez ou vous y croyez pas? Grande croyance, là, on est en pleine gesticulation. Bon, moi je vous donne un argument. Moi je vais vous dire que, regardez, si j'ai une maille comme ça, hein, et qu'elle se défait selon le mouvement de Rademeister, l'intérêt de vous présenter ce truc avec des tortillons, c'est quoi? C'est que si ça se défait bien quand il y a un croisement de chaque côté d'une maille, hein, mais ici, si vous comptez bien, vous faites tout le tour, vous voyez que c'est une maille. Ça peut être très étendu, ça reste une maille. Il y a, maille, ça veut dire deux croisements. Et elle est non alternée. Bon. Eh bien, vous voyez bien que l'intérêt des petits tortillons que j'ai fait apparaître là, c'est quoi? C'est que si maintenant je vous dessine ça comme ça, si j'en mets une flopée de petits tortillons, mais que j'en mets autant de l'autre côté, ce qui va compter, c'est bien sûr qu'il y en a autant de l'autre côté. Ah, faut qu'il y en ait autant. S'il n'y en a pas autant, ça ne va pas marcher. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je suis sûr que dans ces deux cas-là, je vais pouvoir obtenir quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment, enfin, le parcours du fil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je vais pouvoir défaire cette maille, et ici, je vais en avoir quatre à défaire successivement. Ça se déroule. Mais vous voyez, bon. Donc cet argument, si vous êtes d'accord que le nœud borroméen précédent se défaisait, maintenant, vous voyez bien que en détortillant ça, même en n'en gardant qu'une des mailles à la fin, en gardant un croisement ici et un croisement là, on va retomber sur le dessin précédent. Et donc ça se défera, si c'est bien symétrique. Ça va? Le raisonnement, c'est un argument. Même si ici, vous voyez, c'est plus facile à voir là parce que les trucs en série. Bon. Par contre, regardez ce que je vais vous faire apercevoir qui va être le premier lieu de l'amorce de ce qui va nous faire structure parce que ça va faire impossible. Ça va venir nous emmerder. Qu'est-ce qui va venir nous emmerder à un moment ou à un autre dans cette histoire? Mais c'est très bien que ça vienne nous emmerder parce que comme ça vient nous emmerder, justement, il va y avoir quelque chose à dire. Si tout se défaisait bien comme on veut, on dirait, oui, ben, vous l'avez choisi, ou bien tout se défait bien, donc il n'y a rien à dire si tout est pareil. Vous allez juste regarder. Si vous avez les mailles, si vous avez les tortillons dans un autre sens, vous voyez, regardez. J'en mets 3, 1, 2, 3, 4 tortillons comme ça. Et puis là, j'en ai 4. Il va y avoir plus de contraintes pour que ça se défasse. Parce que si vous tirez là sur les deux extrémités, c'est-à-dire ici, là, les points, ce point x, x prime, et puis ce point x, y, y prime, si vous tirez sur ces extrémités, enfin, quel que soit ce qui se passe ailleurs, si ça n'influence pas ce qui se passe là, vous pouvez toujours défaire les mailles. Tandis que ici, tout va dépendre de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez? Regardez, ici, x, x prime, ici, y, y prime. Ça va être favorable à l'équivalence. Ça va être plus difficilement favorable. Ça pourra l'être, mais va falloir faire gaffe.
je vous explique tout de suite ce que je veux dire. Regardez, si je raccorde les choses comme ça et comme ça, pas de problème. Ça se détortille. Vous voyez, la main qui est là, elle va passer, et puis hop, ça va se détortiller les deux ensemble. Mais si je fais un autre type de mise en continuité, tenez, par exemple, si je fais ça comme ça et ça comme ça, eh ben, c'est plus emmerdant. Mais, donc le quart de tour, quand ça tourne, et le quart de tour, il va avoir une fonction dans cette vidéo. Le quart de tour des tortillons, ça va être des nœuds. Chaque quart de tour va correspondre à des éléments de nœuds, à du mouvement nœud, à des nœuds. Donc le quart de tour, il n'aura pas la même fonction ici que là. Parce qu'il y a ce genre de truc, là ça coince. Ça va nous conduire, ça, jusqu'à un bord. Ça veut dire que, je vous rassure, tout de suite, c'est pas parce que les séries de tortillons vont être infinies qu'on ne va pas rencontrer, de toute façon, très vite, un endroit où ça vient cogner, ça vient buter. Hein? Ça va faire une bosse. Bon, ça c'est une indication pour la suite. Alors, est-ce que je peux effacer maintenant ça? C'était assez simple comme argument pour dire que ça, ça va se défaire. Que maintenant la question c'est que si ça, ça se défait comme on a vu se défaisaient les deux borroméens simples, là, les premiers, les prototypiques, est-ce que ça, ça se défait aussi? Parce que là, j'ai introduit une difficulté, j'ai fait une coupure. J'ai introduit deux coupures dans un triskel qui sont. Ces deux coupures ne sont pas là. Donc ici, ça se défait bien parce que c'est, finalement, on va se retrouver dans le cas du borroméen. Je vais vous défaire, est-ce que je peux effacer ça? Ça va? Il n'y a pas d'objection et d'idée, non? De vouloir poser une question supplémentaire ou faire un commentaire, non? Alors regardez. On va prendre le borroméen. Bon, ça, vous pouvez essayer chez vous, ça se défait très bien. Vérifiez que mon argument fonctionne bien. Ça donne trois rondes, ça. Ce qui fait que je peux dire que A, si A, je vais dire que A se défait avec B qui est un A moins 1, qui est un inverse de A. Donc je peux dire que le nœud inverse de B, là, l'inverse de B, il est équivalent à A. Je l'appelle B moins 1. Ça, c'est la définition de cette équivalence entre A et B moins 1. Je dirais un X est équivalent à un Y si la composition de X est de l'inverse de Y, ça donne 0. Ah voilà, tenez, c'est tout ce qu'il y a à faire dans l'homologie, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à faire comme arithmétique. C'est que, on va dire que A est équivalent, on va faire ça en X et en Y, X est équivalent à Y, hein, équivalent, puisque c'est un des termes qui va être un terme d'appui dans la lecture de Lacan. Il dit que quand c'est équivalent, il n'y a pas de rapport, quand c'est pas équivalent, il y a du rapport. Si on veut s'intéresser à ce que Lacan nous dit entre ce qui se passe entre X et Y, c'est-à-dire entre un homme et une femme, il y a du rapport ou il n'y a pas de rapport sexuel, hein, il dit dans ce séminaire, il dit ce que j'ai pas bien dit dans mon titre de ma thèse quand j'étais jeune en 32, Lacan il dit j'ai parlé de la psychanalyse, non, la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. C'est comme ça qu'il introduit le problème, leçon numéro 3 du symptôme. Et il dit, c'était pas bien, j'étais pas arrivé au degré cristallin de mon style, puisque, il dit, la psychose paranoïaque et la personnalité, ça n'a pas de rapport, puisque c'est la même chose. Donc, l'équivalent, c'est quand c'est pareil. C'est le même ou c'est pareil? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Heidegger. Aux traducteurs qui traduisent traduisent les guerres en français. Dans la question de l'essence de la vérité, là, c'est le principe de raison, ça patine sec. Le pareil, le même. Qu'est-ce que vous trouvez de plus? Le même, c'est l'équivalence ou c'est le pareil? Deux choses sont équivalentes, c'est quand elles sont pareilles ou quand elles sont le même. Quand elles sont le même, on pourrait dire qu'elles sont identiques. Est-ce que l'identité, c'est une équivalence? Oui, mais est-ce que toutes les équivalences sont des identités? Pas sûr. Eh bien, vous voyez, c'est ça qui donne lieu à une théorie en Algèbre, on appelle ça quotient, on appelle ça classe d'équivalence. Et les classes d'équivalence deviennent des objets. Il y a quelque chose de l'ordre de la condensation et de l'éclatement. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est juste un tout petit peu un truc à lire. Regardez. X est équivalent à Y si X composé, alors je vais mettre un point, avec Y moins 1 est équivalent, garde l'équivalence, à 0. Là, qu'est-ce que je voudrais utiliser comme modèle? Je dis que 3 est égal à 5 moins 2 si 3 moins 5 moins 2 est égal à 0. C'est ce qu'on vous a appris à l'école primaire pour vous enquiquiner. On vous a dit, vous savez, je change de côté du signe égal un terme et je change de signe. C'est pour faire suer les gamins qu'on fait ça. C'est très mal dit. C'est pas parce qu'on change de côté qu'on change de signe. Il y a des profs puristes qui ont découvert la notion de relation, de composition, d'éléments inverses. C'est en ajoutant, il y a des gens qui vous diront, ils auront raison d'ailleurs, que 3 moins 5 moins 2 c'est égal à 5 moins 2 moins 5 moins 2. Et c'est à ajouter des deux côtés la même chose, c'est-à-dire le moins 5 moins 2, que j'arrive à former quoi? Ça. Parce que 5 moins 2 moins 5 moins 2, ça fait 0. C'est pas que j'ai changé de côté en changeant de signe. Vous voyez, ce que je suis en train de faire, moi, avec les dessins, je fais pareil. Je joue sur des lois algébriques et ce sont des lois aussi d'écriture. Je peux le dire. J'ajoute l'élément inverse de 5 moins 2 des deux côtés, où ici c'est l'élément opposé, le symétrique pour l'addition. J'ajoute la même chose des deux côtés, c'est une quantité qui va être l'inverse ou l'opposé de celle-ci, pour obtenir ça. Et puis vous pouvez le dire autrement, vous pouvez le dire, je change un terme en passant de l'autre côté en changeant de signe. Alors il y a des puristes qui me disent, et ils ont raison les puristes de dire que c'est pas la même chose, parce que Leibniz, quand vous lisez le nouveau traité de l'entendement humain, le grand Leibniz, et puis les mathématiciens classiques de l'époque après Descartes, Leibniz encore, ils font des erreurs quand ils n'ont pas bien repéré. Leibniz, à un moment, il n'a pas bien repéré la distributivité, par exemple, ce qu'on appelle la distributivité. Il se gourde. Ça a été un travail énorme. Moi, j'ai une admiration folle pour ces gens qui ont petit à petit dégagé le fait que une espèce de symétrie, de composition, c'est le mot qu'on emploie, graphique, et en même temps, ça peut donner lieu à des définitions et à des axiomes et à des principes algébriques. L'algèbre, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne sait pas si c'est un goût de la symétrie ou un goût du calcul numérique. Là, il y a quelque chose entre le calcul numérique et la symétrie, entre la géométrie et l'arithmétique, dans l'algèbre qui est... Donc, même les moyens mnémotechniques, c'est toute la différence qu'il y a entre les moyens mnémotechniques pour apprendre un truc par cœur et puis le fait de connaître les caractères de divisibilité, par exemple, en arithmétique. Les caractères de divisibilité en arithmétique, c'est des moyens mnémotechniques qui sont devenus de véritables objets mathématiques. Donc c'est pas que du bricolage. C'est le problème de la différence qu'il faut faire entre l'informatique et la logique, entre le langage et les machines. C'est ce que dit très bien Dika. Et le théorème de Gödel, il touche pas du tout à la vérité. Il dit simplement qu'on ne pourra jamais lister tous les théorèmes d'arithmétique. On ne pourra jamais en faire la liste automatique. Et donc, l'incomplétude de l'arithmétique démontrée par Gödel, ça vous, les informaticiens, et l'informatique et tout le traitement computationnel, comme on appelle ça, de toutes les questions, comme c'est en train de se développer depuis le développement des machines informatiques, le traitement computationnel de tous les secteurs d'activité de l'espèce humaine, hein, est voué à n'avoir aucun intérêt fondamental. Ça, c'est Ithaca qui dit ça. Pourquoi ? Parce que le théorème de Gödel, il montre que qu'il y aura toujours des objections à un processus de calcul systématique, computationnel. Il y aura toujours des objections. Et donc, les informaticiens, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire ? Au lieu de faire leur psychanalyse, ce qui serait plus fondamental, d'apprendre à lire, et il y en a qui essayent, hein. J'en connais un, Vaudel, par exemple, à Paris, c'est un type qui a écrit des articles, Didier Vaudel. Il a une réflexion authentique sur l'écriture. Il est le gendre, il bat Lacan, parce que c'est tellement le foutoir. Mais moi, je lui dis que Lacan, c'est très intéressant pour lui. Ça l'énerve quand je lui dis que ce qu'il fait, lui, Vaudel, c'est vachement bien. Il me dit, ah, ce Vapro qui est un faiseur, s'il me dit que c'est vachement bien, ça doit être terrible ce que je fais. Non, moi, je trouve que ce qu'il fait est vachement bien. Il a fait un truc sur le blanc, vous voyez. C'est pas Mankiewicz. Il a fait un très bel article sur le blanc, le tableau blanc, sur la case vide.
Ben oui, parce qu'il y a 10 ans, il avait dit qu'il avait une peur bleue du vide. Du vide.
Ah bon, je sais pas. Mais enfin bon, toujours est-il que je trouve que ce qu'il écrit, c'est très très intéressant.
Mais vous avez dit Mankiewicz et pas Malevich.
Ah, Malevich, pardon. Excusez-moi, c'est le cinéaste, non ?
Oui. On avait rectifié.
Oui. Malevich, le tableau blanc dont on s'évoquait au théâtre, là, chez ces auteurs crétins, hein, qui font des pièces de théâtre sur le tableau, là, ça a été un. Il y a même. Ils ont changé d'acteur, mais ils ont fait ça pendant plusieurs saisons, hein, une pièce de théâtre lamentable. Vous voyez, se moquer des gens qui sont là en train de se refiler un tableau blanc pour des fortunes, ils ont absolument tort, c'est fondamental. Il faut payer des fortunes pour avoir un tableau blanc. Si on réfléchit un peu. C'est comme la phase phallique et la castration, vous voyez, c'est de ça dont il s'agit. C'est arriver. Ah, bien sûr, quand vous avez fait un tableau blanc, c'est pas la peine d'en faire 15. C'est ça l'erreur. C'est l'erreur de la nouvelle peinture italienne. J'ai vu une fois au Guggenheim à New York, hein, une exposition sur la peinture d'avant-garde italienne. Il n'y avait rien à garder. Tout ce qu'ils faisaient, ça avait été déjà fait, et en mieux. Non, mais c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce que c'est le type qui fait le geste le premier ? C'est pas seulement qu'il soit le premier, il faut le faire le geste. Il faut faire le geste qui devient un acte. Et le tableau blanc, c'est un acte. Et Vaudel, il écrit vachement bien sur la façon dont il a découvert la fonction du tableau blanc pour expliquer des processus dans ses programmes d'ordinateur. Moi, je l'encourage. Il est dans l'université, le département Blaise Pascal de l'université de Diderot. C'est des bons parrainages. Bon, toujours pour vous dire que je me suis occupé de ça très tôt. Ce que dit Indica, c'est très clair, c'est simple. Avec le terme de Gödel, l'incomplétude, vous, les techniques computationnelles à n'être qu'une succession ad hoc d'astuces, et de ne jamais rencontrer justement une butée qui ferait qu'il y ait quelque chose de fondamental. Et donc, ce sont que des généralités. Voilà, on va distinguer comme ça la généralité de quoi ? De ce qui a très mauvaise presse, de l'absolu. Alors l'absolu, ce n'est pas la totalité, au contraire. C'est absolument impossible. C'est-à-dire, l'absolu, c'est... Eh bien, écoutez, l'absolu, c'est... évidemment, quand on est un épicier, là... fait du management, on ne peut pas comprendre ça, mais un mec comme Prométhée, vous l'enchaînez sur un rocher où il fait bouffer le foie par un vautour, il continue à dire au dieu là qui l'engueule, tu vas voir, je vais te la casser la gueule et tout ça. Non, mais les gens raisonnables, la tragédie, c'est pas fait pour les gens raisonnables. Ben moi, je prétends que si, la tragédie, c'est de l'ordre de la raison. c'est de l'ordre de la raison. Il y a des trucs comme ça, même dans Molière, voyez-vous. Même Célimène, elle a raison de dire aux deux gars qui veulent lui dire « Alors, lequel des deux tu préfères ?» Elle dit « Non, bah, elle dit, mais vous êtes fous, moi, je le sais bien qui je préfère. » Enfin, non, même Molière nous fait croire qu'elle n'aime personne. Ce qui n'est pas sûr. Elle a tout à fait raison. Elle ne peut pas le dire.